télé-réalité, il faut remonter dans les années 1970.
Oui, faisons un peu de préhistoire télévisuelle, si vous le voulez bien, direction les États-Unis. Nous sommes en 1973 et un programme tout neuf va passionner les foules, An American Family.
During the next hour, you will see the first in a series of programs entitled An American Family. For 7 months, the family was filmed as they went about their daily routine. There is no question that the presence of our camera crews and their equipment had an effect on the loud.
Alors vous l'avez un peu compris, hein, le concept, une famille de Santa Barbara qui est filmée dans son quotidien. L'équipe de tournage ne pose pas de questions, n'interagit pas. 7 mois de tournage et 300 heures d'enregistrement avant de passer au montage. C'est quasiment une expérience sociologique et ça va passionner les Américains. Ils seront 10 millions à visionner le dernier épisode. On peut déceler les prémices aussi de la télé-réalité dans les émissions de caméra cachée. Là, c'est le dispositif qui est novateur. La caméra est la situation quotidienne dans laquelle on injecte de l'extraordinaire. Azilis Kondraki est doctorante en anthropologie et spécialiste de la télé-réalité.
Aux États-Unis, ça s'appelait Candid Camera. On a retrouvé l'émission après plus tard en France sous le nom de la caméra invisible. Mais à partir de ces prémices, c'est vraiment donc dans les années 2000 que le genre va exploser, au moment aussi de l'accélération de la mondialisation. Puisqu'au fond, la télé-réalité, ce qu'on oublie souvent, la plupart du temps, c'est une adaptation d'un format étranger qui a été conçu, produit et déjà diffusé ailleurs. Donc souvent, elles viennent du triptyque États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas.
Alors parlons-en justement de ce triptyque Paris, États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas. Pourquoi c'est dans ces pays-là que la télé-réalité émerge ? Eh bien, on a parlé de mondialisation et d'exportation de formats. L'industrie de la télévision dans ces trois pays est plus commerciale. Azilis Kondraki.
En termes de moyens, aussi de moyens financiers, donc vraiment on parle de moyens de production ou de conceptualisation de formats, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont un marché beaucoup plus structuré, ce qui leur permet de produire des contenus plus rapidement, de mettre plus rapidement des formats sur le devant de la scène.
Et d'ailleurs, c'est aux Pays-Bas que va émerger le format Big Brother, l'ancêtre de Love Story. On se plonge dans l'ambiance, on est en 1999.
Winner van Big Brother is geworden Bart.
Elle est encore vierge.
J'avais jamais vu de vibromasseur, ma vie, c'était le premier.
Et là, je peux bien vraiment le confirmer, ici, on n'utilise pas de scénario.
Betty, la chouette rieuse, doit cette popularité à l'émission de VTM Big Brother.
Je ne pensais pas qu'autant de monde me soutiendrait, et je vous en remercie.
C'est clair, Big Brother a changé sa vie.
Ce programme tient-il du voyeurisme ?
Oui.
C'est comme si dans l'opinion publique, on avait peur que les gens se montrent tels qu'ils sont.
Muriel doit quitter la maison dans l'heure.
Le concept est inventé par Joop van Ende et Yon de Mol, les deux fondateurs de la société néerlandaise Endemol. C'est vraiment là qu'on va rentrer dans la télé-réalité telle qu'on l'entend aujourd'hui. Paul Sanfourche est l'auteur du livre Sexism Story aux éditions du Seuil.
Tout casse les codes parce que c'est la première vraie télé-réalité d'enfermement. Donc ça déjà c'est complètement neuf de mettre des gens, des personnes lambda, dans un environnement filmé 24 heures sur 24, pour suivre leurs interactions, leurs disputes, leurs engueulades, les amours, les rigolades, c'est entièrement neuf à la télévision, ça ne s'est jamais vu. Il y a cette idée aussi que quelque part tout sera vrai. Donc là, on a cette illusion que dans un espace clos, couvert de caméras et de micros, on va pouvoir tout capter. Évidemment, dans le détail, ça sera un peu moins simple que ça. Mais c'est la promesse et c'est ça qui est complètement neuf et qui est complètement révolutionnaire.
La télé-réalité va d'ailleurs beaucoup jouer sur cette promesse de transparence totale qui n'est qu'une promesse, Azilis Kondraki.
Je préfère parler vraiment de construction sociale de la réalité, c'est-à-dire qu'on va décider de montrer certaines choses, d'en cacher d'autres pour raconter l'histoire qu'on a envie de raconter.
Lors de sa conférence de presse pour lancer Love Story, Endemol France parlera d'ailleurs de « fiction du réel ». Ajouter à la promesse de transparence la dimension interactive. Hein. Dès le départ, les gens sont invités à voter pour sauver leur candidat préféré. On leur promet donc qu'ils écrivent eux-mêmes l'histoire quelque part. Et cela se combine avec l'arrivée d'Internet. Il est possible de suivre les candidats H24 en s'abonnant au site.
Ça marche aussi parce qu'il y a une promesse de voyeurisme qui est indéniable. On peut voir sans être vu. Ça donne un sentiment de toute puissance qui est grisant. Et puis ça marche parce que je pense qu'effectivement, il y avait cette promesse de voir des gens qui nous ressemblaient. Il y a vraiment dans le casting quelque chose de neuf par rapport à ce qu'on voit à la télévision à l'époque. Il y a plus de diversité, Il y a des gens beaucoup plus jeunes que ce qu'on voit aussi à la télévision, plus populaires aussi, beaucoup plus populaires, qui parlent comme nous, entre guillemets, hein, parce que nous c'est forcément pluriel, mais on est vraiment avec des gens de la rue qui parlent entre eux, que ça amène un petit vent de fraîcheur. C'est des choses qu'on ne voyait pas à l'époque.
En Flandre, proximité culturelle avec les Pays-Bas oblige, Big Brother débarque déjà en l'an 2000 et révèle Betty, qui fera carrière dans la chanson et sur les plateaux télé.
Comment est-ce que vous avez vécu ça, tout d'un coup, le fait de passer d'un statut d'anonyme à un statut de
femme célèbre ? Le moment quand je sortais la maison, c'était drôle, hein, tous les gens venaient, « Ah, Betty, un signature, Betty !» Alors ça faisait drôle, c'était comme je venais de la lune, quoi.
Avec son physique de blonde pulpeuse, Betty coche les cases de l'archétype de Loana, ce qui dessine déjà les questions de casting et de sexisme inhérents à ses émissions, mais ça, ce sera pour notre épisode 2.